Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Ben Aouda Abdelhaim, pour toutes ces études récoltées à travers le monde. Notre bibliothécaire qui nous fera voyager dans le passé, Stéphanie Colo. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui, dans la librairie de l'écho, nous allons tenter de clarifier les enjeux, d'évaluer les promesses et de débusquer les mensonges et les hypocrisies de ce qui est annoncé comme la priorité du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, la transition écologique. Pourquoi faut-il vraiment sortir des énergies fossiles? C'est ce que nous allons voir avec vous, Barbara Domenech. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, vous enseignez au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Vous êtes à l'origine d'une technologie de pointe qui permet l'identification et le suivi des polluants environnementaux. Vous publiez « Comment les énergies fossiles détruisent notre santé, le climat et la biodiversité » chez Odile Jacob. Et puis, si la consommation qu'on présente comme éco-responsable n'était au fond qu'un alibi pour ne rien changer à nos mauvaises habitudes, c'est la question que se pose Fanny Paris. Bonjour Fanny, vous êtes anthropologue, vous êtes enseignante aussi en France et en Suisse. Et vous... Alors on cite votre podcast qui est super sympa, ça s'appelle Madame l'Anthropologue. Vous traitez les questions d'actualité avec votre regard d'anthropologue.
Exactement. Tous les sujets qui font sens pour les individus, sérieusement et sans se prendre au sérieux.
Voilà, et vous publiez Les Enfants Gâtés aux éditions Payot. On commence avec vous, Barbara Domenech. Votre thèse, c'est que les trois grandes menaces qui pèsent sur notre civilisation, le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution chimique, eh bien, tout ça est beaucoup plus étroitement lié qu'on le pense.
Oui, exactement. Effectivement, le titre de mon livre est « Comment les énergies fossiles détruisent notre santé, la biodiversité et le climat ». Mais pourquoi je l'ai écrit? Parce que je trouve que les énergies fossiles attaquent non seulement à notre intelligence, mais aussi à nos processus démocratiques. Et ceci est lié...
Alors c'est ça, parce qu'en fait le lien entre tout ça, c'est quand même les énergies fossiles.
Oui, exactement. Je donne le chapitre, la fin du livre, je propose un chapitre sur les solutions, comment s'en sortir... mais j'aurais dû l'appeler les limites des dégâts.
Alors vous êtes particulièrement au point sur les plastiques.
Oui. La production de plastique a augmenté.
Racontez-nous le cheminement du plastique comme ça.
Oui, les plastiques sont dérivés des énergies fossiles.
Ouais.
Oui, ça vous le savez. Mais la production de plastique a augmenté depuis 2017 de 50 milliards de tonnes. Ça suffisant pour couvrir un domaine de comme l'Argentine de
Et ça c'est vraiment c'est presque, j'ai envie de dire, quand on lit votre livre, c'est ça qui est frappant, c'est on a l'impression que c'est presque le principal fléau aujourd'hui.
Oui, alors il y a des solutions que je cite, récolter le plastique dans les rivières principales.
Mais ça paraît simple.
Oui.
Ça paraît facile presque.
Oui, mais c'est
par rapport à vos problèmes de pollution.
Vu les niveaux de plastique qui sont dans la mer Pacifique, c'est pas pour, ça couvre une immense territoire.
Oui. Vous vous attaquez particulièrement aux effets des pollutions chimiques sur oui. le cerveau.
Oui, effectivement. Il y a plusieurs exemples de comment la pollution chimique affecte notre cerveau et notre intelligence. Par exemple, il y a eu des études effectuées en Suède, en Norvège, où des conscrits militaires ont été constatés qu'il y avait une baisse d'intelligence. Il y a d'autres études qui ont démontré la même chose. C'est effectivement...
Et vous montrez aussi que les études qui sont faites justement sur quasiment les fœtus... Avant la naissance, montre que déjà il y a une partie de notre activité cérébrale qui est jouée déjà.
Effectivement, l'exposition prénatale aux substances chimiques présentes dans le sang des mamans et après la présence des écrans sur les enfants a un effet néfaste. Entre parenthèses, Bill Gates et Steve Jobs ont interdit les écrans
à leurs
enfants. Oui.
Et est-ce que... évidemment, je veux dire, tout le constat que vous faites, il est extrêmement
inquiétant.
Préoccupant. Moi, j'ai envie de vous dire que malheureusement, plus on aligne les scénarios et inquiétants, etc., on se dit, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour infléchir ces trajectoires ?
Ouais, les énergies renouvelables.
Ouais.
Oui, ça c'est certain. Le pacte vert de l'Europe cite les énergies renouvelables comme principaux méthode pour s'en sortir.
Et en gros, qu'est-ce qu'on fait ? Le scénario qui nous attend, c'est quoi ? Parce qu'en fait, on regarde quand même, il y a des problèmes qu'on a su résoudre quand on a voulu. La couche d'ozone, par exemple.
Oui.
On a voulu s'y attaquer, on a réussi. Et puis, il y a le scénario dit de l'île de Pâques, où finalement, l'homme a couru à son autodestruction. Vous, votre scénario, c'est quoi ?
Dans le livre, je cite l'île de Pâques comme un contre-exemple de comment la coopération a pu résoudre. Il y a eu l'esclavage, etc. L'île de Pâques était sujet de l'esclavage.
Est-ce que vous avez une idée sur la façon dont on peut se passer vite des énergies fossiles ? Est-ce que en combien de temps ça peut se faire ?
Je cite les énergies renouvelables. Par exemple, le passage à l'hydrogène pour des voitures, le passage à des voitures électriques, c'est possible. La désertification, le capture carbone dans les sols, possibilité de capture de carbone est essentielle pour maîtriser la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Mais l'INRAE a calculé que les 40 cm de sol peuvent compenser l'utilisation de CO2 par toute la planète actuellement.
Alors, Barbara Domenech, ce cadre est planté. Alors moi, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une autre solution, finalement, pour que tout ça soit durable. Ce serait ce qu'on appelle la consommation éco-responsable. Fanny Paris, ça paraîtrait finalement logique, une consommation qui n'est pas orthogonale aux intérêts de la planète. Non, mais est-ce que c'est si évident que ça ?
À première vue, la consommation éco-responsable, c'est une belle histoire qui permet de faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. Ça permet, dans les faits, de donner bonne conscience à des individus, à des citoyens consommateurs qui se retrouvent à assumer toute la culpabilité de cette transition éco-environnementale où on leur dit que c'est leur mode de vie qui sont la cause et la conséquence de cette transition. Et là, par la consommation, on leur dit qu'ils vont pouvoir changer certaines de leurs pratiques pour pouvoir assurer cette transition.
Oui, mais ce qui est séduisant aussi dans cette idée de la consommation éco-responsable, c'est l'idée de la transition sans douleur, en fait, finalement. C'est l'idée qu'on va, finalement, petit à petit, aller vers un monde plus durable et de façon pas si pénible que ça.
Ah, c'est le changement au prix du moindre effort, ouais. Où, en fait, on va valoriser les micro-gestes, les petits changements du quotidien, où, en fait, on ne va pas forcément prôner un consommer moins, mais un consommer mieux et différemment, qui va même amener à une nouvelle forme d'hyperconsommation. On se situe même dans un renouveau des Trente Glorieuses où les individus sont nouvellement en phase d'équipement. Donc, par exemple, ils vont avoir une gourde en plastique fonctionnelle, ils vont aller vers une gourde en verre, ils vont avoir une voiture thermique en état de marche, ils vont aller vers une voiture électrique qui n'a pas forcément une batterie qui va être recyclable à moyen ou à long terme.
Oui, vous le dites en fait, hein, en quatrième de couverture de votre livre, on est passé de l'injonction « consommer mieux et moins » à celle de consommer mieux et plus.
Exactement, parce que le fait de consommer différemment, cette éco-responsabilité, c'est devenu une norme, une injonction qui s'est démocratisée. Donc pour répondre à cette démocratisation, pour que le système et nos institutions et nos modes de vie soient maintenus, eh ben, ça nécessite quelques compromissions, quelques arrangements, des nouvelles offres sur le marché, des nouveaux récits collectifs, publicitaires, qui vont permettre de rendre cohérent cet écart, en quelque sorte, entre la réalité des pratiques et l'imaginaire qui est prôné.
Et après tout, si l'intérêt... est-ce que c'est pas la magie du capitalisme, finalement? C'est-à-dire cette idée de... Mais non, mais cette idée d'être plastique, c'est-à-dire que cette idée que uniquement par intérêt et pas par bon sentiment, oui, on va avoir des comportements qui vont peut-être, finalement, être favorables aux intérêts de la planète, de la biodiversité, etc.
Exactement. D'un point de vue anthropologique, on parle de récit collectif, d'un imaginaire qui, ouais, va être porteur de sens et qui va permettre d'occulter le fait que les actions ou que notre bonne conscience, elle est complètement contre-intuitive avec la réalité qu'on ne voit pas, qui est mis sous le tapis, qui est mis plus loin.
Mais quand vous dites ça, on a l'impression qu'il y a une espèce, quelque part, de, je dirais pas de complot, mais de manipulation des foules, quelque part.
Non, pas du tout. Il y a à la fois peut-être effectivement des stratégies de communication, des stratégies, ouais, politiques qui vont faire en sorte de rendre acceptables ces changements de pratiques au prix du moins d'efforts pour les individus. Et de l'autre côté, on a un inconscient collectif qui va aller vers ce qui est le plus plaisant d'imaginer. Et ça, c'est humain et c'est normal. Et au final, si on nous dit d'acheter un packaging un petit peu plus vert, ouais, ou alors de partir un petit peu moins loin de chez soi, eh ben, c'est un sacrifice qui est entendable. Mais tout le propos de mon ouvrage, c'est de montrer comment on va avoir une imposition d'une nouvelle culture légitime, ouais, dominante, celle de la socio-éco-responsabilité, qui au final amène des jeux de pouvoir, une violence symbolique entre les différentes classes sociales.
Alors justement, les classes sociales, parlons-en. Alors d'abord, oui, en faisant simple, oui, dites-nous, vous dites, nous vivons en créatocratie. Qu'est-ce que la créatocratie ?
Alors, la créatocratie ressemble à un pays merveilleux où, au final, la transition socio-éco-environnementale, pardon, aura lieu grâce à une consommation éco-responsable. En pratique...
Mais la créatocratie, c'est la contraction de quel mot ?
J'allais y venir, mon cher, ouais, monsieur. La créatocratie, c'est un néologisme qui est formé de deux mots, de création et de pouvoir. Et la créatocratie va désigner un système dans lequel ceux qui dirigent, ceux qui ont le plus de pouvoir politique, économique, sont ceux qui contrôlent la culture. Et cette culture, ça devient celle de la socio-éco-responsabilité qui vont ériger en valeur suprême à la fois les valeurs sociétales, de justice sociale, d'équité des genres et les valeurs écologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se confond dans les faits avec un autre imaginaire qui n'a rien à voir, qui est celui du mythe du progrès, mais qui vont venir dans un ensemble de constellations, de pratiques, de postures idéologiques, rendre confortable ce que j'appelle le mythe du capitalisme responsable et qui va induire tout un accompagnement de la population vers des pratiques jugées plus socio-éco-responsables. En gros, comment on est quelqu'un de bien par la consommation.
Ouais. Alors, ces populations, vous dites, il y a deux familles, grosso modo. Il y a ce que vous appelez les nouveaux sauvages,
oui,
et ce que vous appelez les enfants gâtés, qui donnent lieu au titre de votre livre. Mais... vous dites, il faut commencer pour comprendre ce que sont les enfants gâtés par comprendre ce que sont les nouveaux sauvages, qui sont vraiment au cœur d'ailleurs de votre livre. Alors, dites-nous, qui sont ces nouveaux sauvages ? Est-ce qu'on en connaît ? Est-ce que c'est nous peut-être ?
Alors, les nouveaux sauvages, effectivement, c'est vous, c'est moi. C'est ceux qui vont imposer par leur parcours scolaire et professionnel, par leur position dans la société, cette fameuse culture de la socio-éco-responsabilité. Certains vont le faire de bonne foi parce qu'ils croient dans les préceptes de l'éco-responsabilité, ouais, et d'autres d'autres vont voir ça plutôt comme une source de nouveaux profits, une marchandisation de l'avenir et de l'éco-responsabilité.
Et une façon de défendre leurs privilèges aussi.
Bien évidemment, si on parle de l'imposition d'une nouvelle culture légitime qui est celle des classes supérieures et qui est celle de la socio-éco-responsabilité, tout l'enjeu, c'est de capter d'une part les aspirations, les attentes d'une époque, d'une société, pour pouvoir les réintégrer dans leur logique de classe, d'action, de représentation, et pour les imposer comme une logique, alors qu'on a plein d'individus qui sont au final très loin de ces préoccupations éco-responsables.
Vous dites ces nouveaux sauvages, c'est un peu une élite culturelle sur le déclin.
Exactement.
Et alors elle a une particularité, c'est qu'elle est convaincue qu'elle sait tout mieux que les autres.
Exactement. Elle se qualifie elle-même comme la première génération qui sait, et qui a envie d'abonder le monde avec cette éco-responsabilité.
Alors on met qui là-dedans? Est-ce que ce qu'on appelle les bobos, par exemple, ça rentre typiquement dans cette catégorie?
Alors, la monographie anthropologique que j'ai faite, c'est-à-dire une étude détaillée à la fois des pratiques et des représentations des classes moyennes et des classes supérieures, nous montre un phénomène intéressant. C'est qu'on n'est plus seulement sur une lecture horizontale des classes sociales, entre classe populaire, classe moyenne et classe supérieure, mais on a une illusion de disparition des classes avec des entailles un petit peu verticales dans le corps social qui créent des histoires, des ethnies culturelles qui vont être beaucoup plus fédératrices. Et dans ces ethnies, qui sont des néologismes, qui n'ont pas de fondement scientifique, mais qui font sens dans la vie des gens parce que ça caractérise des changements de société et ça permet de mettre en place des boucs émissaires, j'en ai identifié 4 qui sont porteurs d'un imaginaire et qui vont amener des styles de vie, des styles de consommation. On a les bobos, les normes corps, les boubours et les hipsters.
Les bobos, on voit à peu près ce que c'est. Ouais. Les normes corps, c'est quoi?
Les normes corps, ça va être l'éloge de la simplicité, c'est comment la quête de normalité, l'éloge du moins, va devenir un nouveau luxe éco-responsable et une manière de se distinguer. La sobriété devient une nouvelle forme de prestige.
Les boubours,
c'est le frère ennemi, c'est la face sombre des bobos, c'est un petit peu le monde d'avant qui ressurgit dans sa violence et qui pointe du doigt toutes les contradictions que vont prôner l'ethnie bobo.
Le hipster,
lui, on va être sur une personne qui va essayer de marchandiser la solidarité, la transition, et qui va s'inscrire pleinement dans son époque et qui va essayer d'en tirer profit pour pouvoir créer un nouveau monde plus technologique et plus social à la fois.
Et alors donc on en arrive à nos enfants gâtés.
Exactement.
Ces enfants gâtés, on a l'impression que c'est souvent des classes sociales quand même un peu. On a l'impression que c'est un peu les couillons de l'affaire quoi finalement.
Ah bah non, ils sont pas couillons,
ils sont manipulés un peu, on a l'impression.
Ils sont pas forcément que manipulés. Les enfants gâtés, ça va être des classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui font évoluer la place de la consommation dans leur vie, qui n'est plus une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un certain idéal de vie lié au développement personnel, à la quête de sens, etc. Mais qui surtout ont envie d'être des gens bien, d'avoir bonne conscience et qui vont se tourner vers des offres qui sont éco-responsables. Mais derrière ça, certains ont conscience de ces phénomènes, mais la majorité sont prêts à aller dans le sens de ces récits collectifs pour ne pas renoncer au confort. Ils sont prêts à s'arranger, en quelque sorte, avec leur conscience pour ne pas renoncer au confort.
Mais alors, justement, comment ils font ce compromis? C'est-à-dire comment à la fois ils sont prêts à faire des efforts pour être vertueux, mais sans que ça leur coûte trop, quoi, finalement?
Eh bien, ils vont mettre en place des mécanismes psychosociologiques, déjà, ce que j'appelle des moralités utopiques, où en fait la force du discours...
Alors c'est quoi ça, des moralités utopiques?
Des moralités utopiques, c'est un discours, une histoire qui va être portée par les réseaux sociaux, par les médias, par les marques et par des films, qui renvoie vers un imaginaire qui est positif, qui est bon à penser, et au final, ils sont tellement projetés dans cet imaginaire, que même si leurs pratiques quotidiennes sont en totale contradiction, ils ne se rendront pas compte que leur discours ne va pas avec leur représentation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils vont un petit peu avoir une transition écologique et une consommation éco-responsable un petit peu à la carte. C'est-à-dire que si leur credo, c'est la justice sociale, ils vont valoriser une consommation autour des petits producteurs. Si c'est le bien-être de la condition animale, ils vont aller vers des produits véganes, etc., etc.
Regardez, par exemple, on a une étude qui est tombée ces derniers jours qui dit que les jeunes sont prêts à payer 15% de plus un billet d'avion si on leur donne l'impression qu'ils voyagent plus vert.
Ça, c'est du déclaratif, très cher monsieur, et le déclaratif ne va pas avec les pratiques. On dit en anthropologie que tous les individus sont des menteurs de bonne foi et qu'il y a toujours un écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. Et les enfants gâtés ou les nouveaux sauvages, dans mon ouvrage, c'est un peu de la triangulation où on essaye de comprendre, d'aller au-delà de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent faire pour essayer de comprendre le sens et qu'est-ce qui est en train de se tisser comme histoire.
Alors, c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est effectivement qu'est-ce qui est en train de se tisser comme histoire. Donc, on voit bien sur le plan social, ce que ça donne. Mais au final, est-ce que ça change notre trajectoire justement de bonnes pratiques pour la planète ? Est-ce que ça va avoir un impact sur la pollution ? Est-ce que ça va avoir un impact sur notre consommation d'énergie, etc. ? Ou est-ce que finalement, on aura vécu dans cette illusion qu'on s'achetait une bonne conscience pour finalement sauver la planète et qu'au final, il ne se passera rien. Bah, et donc, je conclue avec la même question qu'avec la question à Barbara Demelex sur finalement, est-ce que ça ne nous emmène pas tout droit vers le scénario Île de Pâques, quoi ?
Bah, j'ai envie de vous dire un petit peu les deux. Parce que d'un côté, ces petits gestes, c'est des micro-prises de conscience qui peut-être, à un moment donné, amèneront à des changements plus radicaux et ça, c'est positif. Par contre, de l'autre côté, effectivement, on a l'impression qu'on est sur une invention ou un progrès social à très court terme sans forcément donner la possibilité à tout un chacun de voir les implications à moyen et long terme. Par rapport à ce que j'ai pu observer et aux études que j'ai pu mener, on est plus sur une course en avant à essayer d'adapter l'histoire de nos modes de vie occidentaux à ces nouvelles injonctions sociales et environnementales. Et pour le moment, on donne l'illusion de changer, parce que c'est vrai, à l'échelle des individus, il y a plein de micro-changements qui sont autant de nouvelles charges mentales qui amènent à de nouveaux mots culturels. Mais par contre, si on dézoome, si on s'intéresse au fonctionnement de la société, on se rend compte que rien ne change vraiment.
Mais vous qui scrutez les âmes humaines comme personne, est-ce que vous avez identifié des leviers qui seraient vraiment des leviers qui permettraient des changements importants de comportement? Je vous dis tout de suite, les économistes, ils ont un raisonnement très simple. Ils disent, si vous voulez changer les comportements des gens, il n'y a que deux façons, hein, c'est la dictature ou les prix. Voilà. Donc, grosso modo, quand la Renaissance est arrivée, c'est parce que le prix du livre a été divisé par 600. Quand la civilisation de la voiture est arrivée, c'est parce que le prix de la voiture a été divisé par 4. Donc, est-ce qu'il y a une voie entre la dictature et la modification des prix et l'incitation par les prix?
Alors, moi, je ne fais pas de la futurologie, je ne m'avancerai pas à prédire. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'il faut vraiment questionner la fermeture de certains imaginaires, comme celui du progrès ou de l'hyperconsommation, comme on l'entend aujourd'hui, et amener sur d'autres voies qui ne soient pas perçues comme des involutions culturelles, comme c'est le cas actuellement. Et puis, c'est aussi de donner à voir des photographies de la réalité, comme j'essaye de le faire avec mon ouvrage, pour donner des éléments de prise de distance en mettant des mots simples sur des phénomènes qui nous semblent complexes, où beaucoup de gens pressentent que quelque chose cloche, que les discours sont un petit peu contradictoires. Mais au final, plus ça nous touche, plus c'est compliqué d'avoir une lecture rationnelle. Donc déjà, dire les choses clairement, c'est déjà une première étape pour avoir cet éveil des consciences.
Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle vos deux livres, Barbara Demelex, Comment les énergies fossiles détruisent notre santé, le climat et la biodiversité. L'autre choc pétrolier, c'est chez Odile Jacob. Et puis, votre livre, Fanny Paris, Les enfants gâtés, anthropologie du mythe du capitalisme responsable. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, et puis évidemment Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique lui aussi attitré de la Société d'économie politique. Allez, tiens, on commence avec votre livre, Christian Chavagneux, un livre d'Alexis Drac, publié aux presses universitaires de Rennes, Liberté surveillée. De quoi s'agit-il ?
Liberté des banques, puisque il s'agit, donc Alexis Drax est un historien. J'ai trouvé le livre intéressant parce que spécifiquement, avec une montagne d'archives, l'auteur nous décrit le début de ce qu'on appelle le fameux comité de Bâle, qui va mettre en place les premières régulations bancaires mondiales. Et on va jusqu'en 1988, où vraiment la première régulation bancaire mondiale se met en place. Mais au-delà de ça, il nous décrit bien tous les aspects économiques, politiques, techniques qui font qu'on arrive à créer de la gouvernance mondiale ou de la régulation économique mondiale. Et je trouve que l'exemple va au-delà et l'intérêt va au-delà simplement de son sujet d'intérêt qui est la régulation bancaire mondiale. Alors, évidemment, on démarre en 1974, puisque le comité de Bâle est créé en décembre 1974. Il y a deux grandes crises, la banque américaine, la Frankfurt National Bank, et puis la banque Erstadt en Allemagne, qui font faillite. Alors, moi, c'est mon seul petit regret, mais vraiment le seul dans un bouquin que j'ai trouvé excellent. Mon seul petit regret, c'est qu'il y a, il y a de gros illégalismes dans les deux faillites et que l'auteur est passé complètement à côté du sujet. Mais peu importe, le bouquin reste quand même passionnant et il nous fait voir que c'est pas parce qu'il y a eu deux crises qu'il y a une génération spontanée de régulation bancaire mondiale. Oui. En fait, c'est parce que en Europe, il y avait déjà un travail qui était fait à la Banque des règlements internationaux qui va chapeauter le comité de Bâle. Il y avait déjà un intérêt des échanges entre les régulateurs bancaires pour se dire, ou déjà dans les années 60, début 70, il y a du crédit international qui se développe, faut peut-être qu'on surveille ça. Et donc, tout ça va amener avec les deux crises, ça va pousser les régulateurs à mettre en place ce comité
juste
de Bâle.
Juste une question bête, Christian, la différence entre le comité de Bâle et la Banque des règlements internationaux.
La Banque des règlements internationaux, elle est née en 1930 et elle regarde un petit peu tous les aspects mondiaux. Et là, le comité de Bâle, c'est les banques commencent à faire du business au niveau international. Est-ce que la régulation bancaire nationale suffit ou est-ce qu'il faut qu'on mette en place une surveillance partagée de manière coopérative?
Donc en fait, c'est le comité de Bâle est hébergé par
est
la
hébergé,
BRI.
Voilà, le secrétariat est hébergé au sein de la BRI. Et donc, on voit comment ce comité va se créer. Donc, on a le récit, hein, que j'ai trouvé passionnant, de décembre 1974. On apprend que la France n'est pas du tout chaude et que pendant toutes les années 70, alors que le système bancaire mondial et français s'internationalise, l'auteur nous dit les directeurs respectifs de la Banque de France et de la supervision bancaire se moquent un peu du sujet de la régulation bancaire internationale. Ils sont passés complètement à côté. Donc, on a petit à petit les évolutions, comment ils vont commencer à échanger des informations, comment se mettre en place tous les piliers dont on parle encore aujourd'hui dans les années 70, début des années 80. Est-ce qu'il faut surveiller les banques de manière individuelle ou le système bancaire dans son ensemble? Ils vont choisir les banques de manière individuelle. Il faudra attendre la crise des subprimes pour qu'on dise ça suffit pas, il faut regarder le système bancaire dans son ensemble. On veut que les banques mettent des fonds propres en face des risques. C'est quoi les fonds propres? Comment est-ce qu'on définit en face des risques, comment est-ce qu'on mesure les risques? Les risques vis-à-vis d'une PME, vis-à-vis d'une grande multinationale américaine, c'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on pondère? Tous les débats, ils sont bien explicités, ils sont déjà là.
D'accord.
Et puis tous les obstacles aussi, tous les obstacles politiques, mais techniques aussi. Tout bêtement, il n'y a pas de consolidation bancaire internationale. On n'a pas de chiffre consolidé. Comment est-ce qu'on fait pour surveiller l'ensemble des risques au niveau international? Il y a plusieurs fois... 6-7 pages, c'est la première fois que je vois traiter ce sujet, alors qu'il me paraît vraiment important, et c'est vraiment très très bien traité dans le dossier, c'est... On voit déjà, dès les années 70, que les régulateurs bancaires s'aperçoivent qu'il y a des grands flux financiers internationaux qui passent par les paradis fiscaux, par les centres financiers offshore. Mmh. Et ils disent, le secret bancaire, ça pose des problèmes fiscaux, mais c'est pas leur sujet, le secret bancaire va aussi nous empêcher de bien réguler la finance internationale à cause de ce secret. C'est extrêmement bien traité. Après, on va jusqu'en 1988... Le fameux rapport Cook, le fameux ratio Cook, qui dit aux banques qu'il faut qu'elles mettent 8% de fonds propres en face de leurs risques. Et là encore, on se retrouve avec la France qui essaie de faire entrer des trucs bizarres dans la définition des fonds propres parce qu'elles sont sous-capitalisées. À chaque fois, la France, à chaque fois qu'il y a eu des grands exemples, c'est une des solutions, parce qu'il y en a plein, des leçons, parce qu'il y en a de multiples dans ce bouquin. À chaque fois, la France est toujours en dessous, elle essaie de tourner les règles. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant.
Jean-Marc Daniel, votre avis?
Oui, alors c'est un livre, effectivement, c'est un travail de Romain. Hein. Je pense que c'est sa thèse qui est derrière. Ouais. Parce qu'il y a alors une foule d'informations. Il y a en particulier, il rappelle quelle est la part des devises dans le bilan des banques des pays qui sont associés à l'opération. Pour rebondir sur votre question initiale, il explique bien que la Banque des règlements internationaux, elle est le lieu d'accueil, mais que les maîtres d'œuvre, les gens qui agissent, c'est le groupe des 10, qui est un groupe qui a été créé dans les années 60 pour répondre au problème de la crise du dollar montante, c'est-à-dire le fait que le déficit de la balance des paiements courants américains menaçait le stock d'or des États-Unis. Donc il y avait un groupe des 10. Et donc il y a une implication étatique assez forte. Hein. Oui. Christian l'a rappelé, les États, c'est les États qui prennent position. D'un pays à l'autre, les États ne sont pas tous le même équilibre entre la Banque centrale et la direction, l'équivalent de la direction du Trésor. Alors après, effectivement, il y a quand même des moments où on se perd un peu dans les détails. Il y a des personnages. Il y a effectivement la faillite de la banque Erstadt. Je connaissais pas les détails de cette aventure. C'est raconté. Et puis tous les enjeux, toutes les applications. La montée en puissance de Horacio Cook. Il détaille bien les trois phases historiques. Il y a la période des chocs pétroliers 74-79, la période de grosso modo Volcker, et puis ensuite l'arrivée à partir de 83-88. Hein. Il faut quand même être passionné par ce genre de problème pour s'engager dans cette aventure. Et je pense que, alors c'est l'éditeur, c'est une presse universitaire, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas un travail, non pas de réécriture, parce qu'en plus c'est dans un style français qui n'y a pas de jargon.
C'est technique mais compréhensible.
Un travail un peu pour alléger l'ensemble et pour aller plus directement. Voilà, le travail d'édition, pour aller plus directement. Mais effectivement, c'est un livre très estimable et je dis un travail de Romain. C'est impressionnant.
Alors, est-ce que le livre de Jean-Michel Steg, qui a gagné la guerre de 14 aux éditions Perrin, a nécessité lui aussi un travail de Romain ?
Non, pas un travail de Romain, mais il aurait nécessité un travail d'édition. Je regrette que, effectivement, alors c'est un peu mon bémol du début, je regrette qu'il n'y ait pas la rigueur et qu'il y a dans le livre précédent, il y a quand même des approximations des dates fausses. Au tout début, la date du traité de Versailles est fausse. La personnalité de Jeannette Rankine, qui est une personnage féministe, la première femme à être représentante, qui va voter contre la déclaration de guerre, aussi bien pour la Première Guerre mondiale que pour la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas son bon nom. Elle est appelée Suzanne Rankine, alors qu'elle s'appelait Jeannette Rankine. Suzanne Rankine, c'est quelqu'un d'autre. Alors, je passe sur ces détails, parce que sinon, on y passerait la séance et ça me ferait monter la pile. Sur le fond, c'est une entreprise intéressante, parce que Jean-Michel Steg a pris le 11 novembre, à plusieurs moments dans
Jean-Michel
l'histoire.
Jean-Michel Steg, il est financier, alors.
Il est financier, puis son vieux long d'aigre, et d'ailleurs, il le fait de façon assez poussée. Hein, il fait des travaux historiques assez élaborés. Donc, il s'est passionné pour l'histoire, et en particulier pour cette période-là et pour la guerre de 14. Et donc, il prend plusieurs 11 novembre dans l'histoire, pas uniquement celui de 1918 qui conclut la Première Guerre mondiale, pour voir ce qui s'est passé, et ça va jusqu'en 11 novembre 2018, avec les événements qui tournent autour de la Première Guerre mondiale, et avec cette question qui nourrit le titre, est-ce qu'il y a eu un vrai vainqueur dans tout ça? Parce que les gens qui se retrouvaient le 11 novembre 1918 en disant on a gagné, assez vite ont déchanté. Il y a en particulier le chapitre sur le 11 novembre 1938, qui est assez saisissant, parce que c'est le lendemain de la nuit de cristal, donc on voit ce qu'est devenu l'Allemagne, et puis aussi il rappelle qu'on est à quelques semaines de Munich, et Munich c'est pas uniquement la capitulation notamment des Français, c'est aussi une sorte de complicité assumée par les Anglais. Les Anglais vont au-devant de Hitler, ils disent on va sceller une paix éternelle, c'est une espèce de pacte de non-agression avant l'heure, avant ce qui a été fait par la suite avec l'Union soviétique. Donc il y a quelques éléments clés. La conclusion par rapport au point d'interrogation, c'est à la fois tout le monde est personne. C'est-à-dire que, effectivement, les gens qui croyaient avoir gagné en 1918 ont déchanté. En 1941, il y a aussi 11 novembre 1941 qui est assez intéressant. Et c'est un appel à l'Europe à la fin. Donc c'est un livre qui est intéressant, agréable à lire. Dommage qu'il y ait toutes ces erreurs. Si jamais il devait être réimprimé, qu'on fasse l'effort de les corriger.
Oui, bon, comme Jean-Marc l'a dit, il y a plusieurs dates sur plusieurs périodes. Donc c'est un livre un peu patchwork, qu'on passe d'un sujet un petit peu à l'autre. Mais néanmoins, il y a des chapitres intéressants. Bon, celui sur le 11 novembre 1918 nous rappelle toute la diplomatie qui va permettre d'arriver jusqu'à l'armistice. Donc voilà, on est content d'avoir ça de côté. On se rappelle cette histoire qu'on connaît plus ou moins bien. Celui sur le 11 novembre 19, j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est l'analyse du traité de Versailles. En fait, c'est ce débat qui date depuis des décennies sur est-ce que vraiment on a imposé quelque chose d'important à l'Allemagne. Oui, mais en fait, comme l'Allemagne n'a jamais respecté le traité de Versailles, non. Donc ce débat, bon, l'auteur rentre et dit finalement l'Allemagne est sortie gagnante, d'où le titre du livre du traité de Versailles. Il revient sur les réparations, évidemment, qui est un gros sujet de la guerre de 14-18, et il montre que la France, par exemple, n'a touché que 15% de ce qu'elle devait toucher. Mais les réparations qui étaient estimées à trois fois le PIB de l'Allemagne, c'est vraiment énorme. Petit point de comparaison, quand l'Allemagne a gagné en 1870, les réparations imposées à la France, c'était un quart du PIB. Là, c'était trois fois le PIB. Ouais. Mais en fait, il nous montre bien que c'est pas trois fois le PIB, que c'était un chiffre pour faire gros, pour faire plaisir aux Français, mais qu'en fait, c'était une fois, enfin, 100, 110, 115% du PIB, ce qui est déjà beaucoup par rapport à ce que la France devait payer. Donc voilà, des petits rappels sur le fait que l'Allemagne est sortie industriellement forte de la guerre de 14, alors que la France est sortie industriellement exsangue. Un point, moi, que j'avais pas du tout en tête, c'est qu'on a dit à la France, c'est pas la peine de trop imposer à l'Allemagne, parce que si elle reprend des forces, on va faire un pacte militaire et de défense défense et de sécurité commune avec les États-Unis. Autant dire que ce pacte n'a jamais été traité par le Congrès américain. Donc on apprend plein de choses comme ça. 39, c'est un petit chapitre de quelques pages. Bon, Munich, Daladier... 38. Voilà, c'est Munich, c'est juste quelques pages. On se rappelle la formule de Daladier qui est, il revient, ouais. Tout le monde va dire, ah, les cons, voilà, parce qu'ils n'ont rien compris, mais il a compris que c'était la guerre qui allait arriver, qu'ils ont juste repoussé. Et puis, dans les chapitres pour 2018, cette fois, pour le dernier, là, il nous dit finalement, je crois que ce qui est la vraie réponse à la question, c'est que tout le monde, c'est que l'Europe a perdu, en fait. L'Europe, avec les deux guerres mondiales, et notamment après la première, perd son leadership mondial en matière économique, politique, diplomatique, culturelle, et que la vraie défaite, c'est l'Europe. Alors, l'auteur essaie de basculer, oui, mais finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a pulsé une nouvelle Europe, mais voilà, cette nouvelle Europe, aujourd'hui, elle est vraiment un nain face aux États-Unis et à la Chine, donc vraiment, c'est l'Europe qui a perdu ces deux guerres mondiales.
Merci, messieurs. Allez, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire, Stéphanie Collot, Henry George, ça vous parle, évidemment. Ah bah, c'est pas... Eh bah, c'est... Bah, justement, ça vous parle pas ?
Henri-Georges.
Henri-Georges.
Il n'est pas français, mais vous voulez que je dise quoi ?
Henri-Georges.
Et vous qui m'avez repris quand je parlais du paradoxe de Tryphine, et vous m'avez dit non, il est belge, on dit Tryphin.
Oui, c'est vrai.
Moi, je vous dis Henri-Georges, et vous me dites...
Ah ben non, mais
je ne pouvais pas croire que vous ne connaissiez pas Henri-Georges, les amis.
Pas sous cette prononciation.
Quel four, ce Jean-Marc Daniel. On écoute Stéphanie.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Allez, on remonte dans notre formidable à voyager dans le temps et on s'arrête en...
1879, avec le livre d'Henri Georges, Progrès et pauvreté. Je vous donne le titre en intégralité.
Oui.
Enquête sur la cause des crises industrielles et de l'accroissement de la misère au milieu de l'accroissement de la richesse.
D'accord.
Le remède. Au cœur de cet ouvrage, une question qu'il écrit d'ailleurs en tout début de préface. Pourquoi, en dépit de l'amélioration de la productivité, les salaires tendent-ils à devenir le minimum de ce qu'il faut pour vivre ?
Eh oui, alors dites-nous, Stéphanie, qui est Henri Georges ?
Alors, c'est un économiste américain. Il est né à Philadelphie en 1839. Il rejoint la Californie pour devenir chercheur d'or. Mais sans succès, il se lance dans l'édition et le journalisme. Autodidacte, il se forme donc tout seul à l'économie politique.
D'accord.
Et publie en 1879, Progrès et pauvreté. Le succès est mondial. Le livre est vendu à 3 millions d'exemplaires. Et il donnera d'ailleurs même naissance à un courant de pensée économique, le georgisme.
Alors, justement, comment est-ce qu'il explique l'augmentation des inégalités et de la pauvreté, malgré finalement la révolution industrielle, les gains de productivité et l'enrichissement global ?
Eh bien, pour lui, le problème ne vient pas du capitalisme, mais des propriétaires terriens qui, à la différence des travailleurs et des entrepreneurs, ne contribuent pas à la création de richesses. Pourtant, ils tirent des bénéfices sous forme de rente qui augmente du fait de l'urbanisation et selon que leurs terres se situent à proximité des grands axes de communication, comme les voies ferrées ou près des grande ville. Il écrit « La pauvreté devient plus intense à mesure que la richesse augmente, les salaires baissent alors que la puissance productive s'accroît, parce que la terre qui est la source de toute richesse et le champ de tout travail est monopolisée. Il n'y a qu'un moyen d'éloigner le mal, c'est d'éloigner la cause. »
Alors, qu'est-ce qu'il propose, Henri Georges, justement ?
Eh bien, pour lui, le travail doit être le fondement de la propriété et il faut que la terre devienne, en fait, une propriété commune. Il écrit, il n'est pas nécessaire de dire à un homme, cette terre est à vous pour l'engager à la cultiver ou à l'améliorer. Il est seulement nécessaire de lui dire, tout ce que votre travail ou votre capital produira sur cette terre est à vous. Il propose ainsi d'abolir les impôts pour les remplacer par une seule taxe, la taxe foncière, qui reviendra à l'État, donc à la communauté, ce qui permet de concilier progrès économique et justice sociale, selon lui. Alors, les idées d'Henri Georges, elles vont connaître un succès dans le monde entier. Et pour la petite histoire, en 1902, Elisabeth Magie, qui a inventé un jeu de société qui s'appelle le jeu du propriétaire foncier, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre du Monopoly.
Exact.
Et oui. Bien, en fait, elle s'est inspirée des idées d'Henri Georges. C'est pour elle, ce jeu est pour elle la démonstration pratique du système d'accaparement des terres avec tous ces résultats et toutes ces conséquences.
Merci beaucoup Stéphanie. Eh bien, on va continuer notre voyage avec notre globe-trotteur, Belaouda Abdelhaim.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Belaouda, bonjour.
Bonjour.
L'inflation, elle est à peu près mondiale aujourd'hui et on s'intéresse à ses causes et ses impacts sur l'économie du Panama.
Oui, comment la vague mondiale est prise par une petite économie d'Amérique centrale qui jusqu'ici n'avait pas le moindre souci de cet ordre. Elle faisait figure même de modèle régional, de rigueur à cet égard. Et même maintenant, quand la hausse des prix est à 3,5% en mars au Panama, elle est de 7 au Salvador voisin, de 9 en République dominicaine. Le travail de mise en perspective est effectué par deux analystes du Centre national de compétitivité à Panama, un organisme proche des employeurs. Roger Duran et Ninushka Tam expliquent comment la dynamique inflationniste est vécue par ce pays de 4 millions d'habitants, 4 millions et demi plus précisément, une petite économie de services qui importe la plupart de ses produits de consommation courants, donc les chocs externes pèsent d'autant plus fort, et que ce soit l'huile de table ou bien le carburant, il n'y a d'autre choix que de subir. Mais les experts du CNC de Panama considèrent qu'il y a malgré tout des solutions possibles pour atténuer la hausse. Dans l'immédiat, il est requis des acheteurs publics, donc de la puissance publique, qu'ils accélèrent le paiement de leurs factures aux fournisseurs, ce qui conduirait à améliorer la capacité de consommation en bout de chaîne. La puissance publique qui doit aussi repenser une meilleure promotion du consommé national, du consommé local. On est là parfaitement dans le propos qu'on entend partout ailleurs à travers le monde. Mais surtout, le Panama pourrait davantage encore jouer de sa géographie éminemment stratégique pour rapprocher les lieux de production des marchés de consommation entre sud et nord du continent. Cela requiert un relèvement de la productivité, nous disent-ils, en encourageant le capital humain et une mobilité efficace, donc très vaste programme. Mais avec la conviction exprimée que cette crise de l'inflation exacerbée par une guerre dans la lointaine Europe peut amener paradoxalement à refonder tout un projet de développement national en Amérique centrale.
Sujet extrêmement sensible. Ensuite, Belaouda, les aspirations de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne.
Alors, vous avez vu cette semaine la chef de la diplomatie allemande en déplacement à Kiev déclarer qu'il n'y a pas de raccourci, je cite, pour adhérer à l'Union européenne. En d'autres mots, l'Ukraine passera par la procédure commune maintenant elle le sait. Ici, l'économiste polonais Marek Dabrowski, qui est professeur ancien du ministère des Finances, ancien de la Banque Centrale à Varsovie, propose une méthode pour ces trois États, quand même, afin d'être au rendez-vous, selon lui, d'un moment historique pour la construction européenne et même pour l'histoire de l'Europe. Il invoque à ce titre un impératif que l'Union européenne ne renie pas ses objectifs d'établir une zone de stabilité et de prospérité dans son voisinage direct et proposer pour cela à la Géorgie, à la Moldavie, à l'Ukraine, un horizon clair d'intégration qui permettrait d'encourager ces nations, d'après l'auteur, à réformer leurs structures étatiques et leurs économies, tout simplement. Marek Dabrowski ne fait l'impasse sur aucun écueil par rapport à la sophistication minimale requise pour rejoindre le cercle des 27. Ouais. Il y a l'écart très grand, d'abord avec le niveau de PIB par habitant de l'UE. Celui de l'Ukraine, avant même la guerre, ne représentait déjà qu'un tiers de celui de la Bulgarie, qui est déjà le plus bas des 27. C'est vous dire le rattrapage requis. C'était avant-guerre même. Ouais. Et puis il y a aussi ce que l'universitaire polonais appelle l'immaturité des institutions. Façon polie de dire que le niveau de sophistication de l'État n'a rien à voir avec celui en vigueur dans les États des 27. Il estime aussi qu'un précédent pertinent existe. C'est celui qui a été tracé pour les Balkans occidentaux lors du sommet de Thessalonique de juin 2003, d'où le titre. Malgré les lenteurs et les lacunes du processus, nous dit-il, ce cadre a stabilisé politiquement la région des Balkans occidentaux et encouragé les réformes économiques et institutionnelles en Albanie, au Monténégro, en Macédoine du Nord et même en Serbie, peu ou prou. L'auteur pense que l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie possèdent même un avantage dont la plupart de ces pays candidats des des Balkans occidentaux ne disposaient pas à l'époque, en 2003. Ils ont des accords actuellement d'association avec l'UE, y compris dans des volets économiques et commerciaux, qui ont déjà nécessité l'adoption de ce qui est appelé dans le jargon UE l'acquis communautaire, c'est-à-dire le corpus juridique commun de l'Union européenne. Marek Dabrowski préconise surtout pour cette offre vers le partenariat oriental, là au corps du jargon UE, de ne se priver de réfléchir à aucune solution intermédiaire, en particulier dans les relations en matière d'agriculture et de services, les deux biais possibles d'association pour ces trois États du voisinage proche.
Et oui, mais c'est vrai que la perspective de l'intégration crée la dynamique justement favorable à cette intégration. Et alors que nous sommes en pleine période d'examen, vous avez choisi de vous attaquer à une question métaphysique. Benaouda, mais qu'est-ce que ça rapporte d'avoir de bonnes notes à l'université?
Alors là, ça concerne le Royaume-Uni, mais c'est un avis à la jeunesse.
Ouais.
La jeunesse étudiante, une mention avec son diplôme, cela se voit sur son bulletin de paye ensuite.
Ah.
Travail de corrélation très instructif, encore une fois, qui concerne le Royaume-Uni. On verra ailleurs. Effectué par 4 chercheurs pour l'IFS, l'Institut public d'études budgétaires à Londres. Ils ont décortiqué les données du ministère de l'Éducation britannique et ils les ont superposées avec les évolutions de salaire à 5 ans. Donc, la solidité d'un. D'abord, il faut noter la solidité statistique de l'échantillon. Ouais. On a pratiquement 470 000 dossiers d'étudiants qui ont été introduits dans le modèle. Alors, le système de notation et d'attribution des distinctions au Royaume-Uni n'est pas exactement le même qu'en France, mais pour simplifier, une mention passable, c'est sous 12 sur 20 de moyenne générale à son diplôme.
D'accord.
Et un diplôme qui a été obtenu en 2013 vous fait gagner en 2018, donc si vous avez une mention assez bien et au-dessus, 3800 livres annuels de plus si vous avez une mention. En moyenne, hein, avant impôt, et ce qui fait à peu près 4400 euros au taux de change actuel, et ce qui est quand même
substantiel.
Alors, par contraste, encore plus saisissant, à une mention dans certains des meilleurs établissements du pays, se traduit par un gain très important en surcroît de salaire à 5 ans entre étudiants de la même université. Alors, si vous sortez de Cambridge, Oxford, LSI, etc. Par exemple, lorsqu'on arrive à l'âge de 30 ans, la différence atteint en moyenne 20% par rapport à votre condisciple.
Même si vous faites une super université prestigieuse,
exactement,
la mention, ça rapporte
mention
beaucoup.
Bien, apparemment, mention passable, c'est 20% de plus. Alors, bien entendu, tout ça, ce sont des moyennes et qu'il faut vraiment se plonger dans l'étude pour avoir les détails. À signaler vraiment aussi qu'être dans le haut du panier, des notations payent moins quand vous êtes une femme. 2200 livres de différence à 5 ans contre 4100 pour un homme. Là aussi, une autre forme d'inégalité du genre. Alors, l'effet mention sur le salaire est plus ou moins prononcé selon les disciplines. Alors, en droit et en économie, ça se vérifie, mais de façon spectaculaire. Il s'avère particulièrement, on est de l'ordre de 15% si vous avez une mention par rapport à celui qui n'a pas eu de mention. Une différence nettement plus marquée que, par exemple, dans la biologie, la physique, la psychologie ou les lettres. Pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire. Ce qui démontre alors que le gain marginal à s'impliquer pour une mention bien n'est pas le même selon les filières. Il vaut mieux s'impliquer lorsque vous faites droit ou éco que lorsque vous faites biologie ou lettres. Si je puis dire.
D'accord, bien entendu,
pas un conseil. Alors, ce rapport établit aussi à quel point l'obstacle à franchir est élevé pour les étudiants issus de milieux populaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous-représentés dans les établissements sélectifs. De ce fait, ils sont donc en nombre absolu moins susceptibles d'accéder à la possibilité de décrocher les mentions les plus rémunératrices, ce qui restreint donc en partie la mobilité sociale, l'effet induit de la mention.
Une chronique à regarder par tous les jeunes étudiants si vous voulez optimiser vos efforts, hein, finalement faire un peu la méthode j'appelais ça la méthode minimax, minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Merci beaucoup Benaouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, votre dernière sélection pour aujourd'hui.
Eh bien, je tenais à rappeler que le 9 mai n'est pas uniquement le jour où Poutine fait des déclarations, c'est aussi le jour où l'Europe commémore la déclaration Schuman, et donc la mise en place de toutes ces institutions dont Jean Monnet est supposé être le père fondateur. Or, on vient de rééditer ses mémoires avec une préface d'Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission, et donc j'invite les lecteurs à découvrir, ou redécouvrir ses mémoires. En particulier, le début de sa vie, il n'a pas été uniquement le père de l'Europe, il a été le représentant aussi des cognacs familiaux à Shanghai. Et donc, il y a une description de la vie à Shanghai à l'époque de la concession française qui est passionnante.
Et si mes souvenirs sont bons, vous aviez déjà discuté ici d'une biographie
de Jean Monnet. Oui, tout à fait. N'oublions pas Jean Monnet, grand financier, adepte des paradis fiscaux dès les années 20.
Exactement, c'est ce qui, c'est ce que j'avais retenu de cette biographie. Il a eu la partie la moins connue.
Il a eu une carrière à la SDN, il a eu une carrière de financier.
Il faut lire les mémoires de Jean Monnet, c'est passionnant.
Christian Chavagneux.
Moi, j'ai choisi une bande dessinée Kilomètre Zéro. C'est le troisième et dernier volume de la fameuse saga de la famille Koechlin, ces Alsaciens qui ont fait fortune dans les filatures, dont le patriarche vend tout pour se mettre, on est dans les années 1830-1850, dans la nouvelle économie du moment, les chemins de fer. Et donc, on a ce côté absolument magique de l'innovation et puis de ce capitalisme français en train de se développer. En même temps, ce que j'aime bien, c'est que les patrons, les dirigeants ne sont pas héroïsés du tout. On n'oublie pas de dire qu'une entreprise qui réussit, c'est des dirigeants, mais aussi des salariés en dessous. Bref, c'est une bande dessinée qui est sur trois volumes, qui vient de la trilogie vient de s'achever, est vraiment remarquable pour une petite histoire du capitalisme français en BD.
Parfait. Et moi, je vous propose un coup de projecteur sur les ouvrages de deux des plus éminents représentants de la pensée libérale autrichienne en France. Eh oui, ils existent encore, ils sont toujours là et ils publient. Alors le premier, c'est le plus ancien, c'est une figure emblématique du mouvement libéral français, Jacques Garello, fondateur du groupe libéral Les Nouveaux Économistes. C'était en 1977, figure emblématique de l'Association pour la Liberté Économique et le Progrès Social. Alors, il a une plume très alerte, hein, Jacques Garello, et là il publie un bouquin qui est pas vraiment un pamphlet, mais qui est assez incisif. Ça s'appelle « Vaccin libéral contre le despotisme », à savoir la concentration trop forte des pouvoirs, et « Vaccin aussi contre le populisme », deux virus qui n'ont produit que des désastres à l'échelle de l'histoire. « Vaccin libéral », donc Jacques Garello, c'est chez JDH Éditions. Et puis le second, c'est le livre du professeur d'économie Thierry Aymard. Là, c'est une réflexion assez élaborée sur les dangers des communautarismes qui sont en train de diluer les individus au profit de logiques collectives qui menace, je cite Thierry Aymard, la source même de la liberté et de la prospérité, le subjectivisme, ça s'appelle la société de la régression, le communautarisme à l'assaut de l'individu aux éditions de l'Aube. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.